Dans un célèbre pamphlet de 1949, La littérature à l'estomac, Julien Gracq, qui refusera quelque temps plus tard le prestigieux prix Goncourt, fait une fameuse parenthèse. Une parenthèse, c'est-à-dire une précision, un ajout, un commentaire, mais quelque chose qui reste quand même accessoire. C'est le signe de ponctuation le plus méchant qui soit quand on y pense. Et cette parenthèse, en l'occurrence, assez jouissive, elle scelle le sort des prix littéraires. Alors je vous la lis, après tout on est lundi et deux grands prix sont décernés aujourd'hui. Puisque j'en suis au prix littéraire et avec l'extrême méfiance que l'on doit mettre à solliciter son intervention dans les lieux publics, je me permets de signaler à la police, qui réprime en principe les attentats à la pudeur, qu'il est temps de mettre un terme au spectacle glaçant d'écrivains dressés de naissance sur leur train de derrière et que des sadiques appâtent aujourd'hui au coin des rues avec n'importe quoi, une bouteille de vin, un camembert, comme ces bambins piaillants qu'on faisait jadis plonger dans le bassin de Saint-Nazaire en y jetant une pièce de 20 sous enveloppée dans un bout papier journal. Parenthèse fermée, Julien Gracq, La littérature à l'estomac, il y a 70 ans exactement.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quel œil mon invité d'aujourd'hui regarde-t-elle encore ses prix littéraires? Ancienne présidente, directrice générale de la fameuse maison Flammarion, éditrice dans cette même maison, mais aussi romancière, elle est une actrice majeure du vaste monde du livre. Elle est l'ombre derrière Michel Houellebecq, Christine Angot, Jean-Christophe Ruffin, Philippe Lançon, Yasmine Areza. Bonjour Teresa Crémisi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors avant toute chose, les prix littéraires, on pourrait s'en passer ou pas?
Oh, pas du tout, hein. Ça fait partie de l'identité française. Et le texte de Julien Gracq que vous venez de lire, il est très drôle. Mais c'est le texte d'un orgueilleux. C'est le texte de quelqu'un qui prend très au sérieux les prix et les refuse pour lui. Et il voit même une connotation moralement douteuse. C'est un grand orgueilleux, grand écrivain orgueilleux.
Alors il en fait un spectacle effectivement sordide et embarrassant. Peut-être que ça l'a été, que ça ne l'est plus du tout.
Oh, sordide, vous savez. Non, je pense que je suis une fataliste gay. Je trouve ça plutôt amusant.
La France sans prix littéraire, ça ressemblerait à quoi? Teresa Crémisi?
Ça fait partie de l'identité. J'ai vécu dans un autre pays, je connais pas mal de pays européens. Il n'y a qu'en France où on s'excite sur les prix littéraires et c'est même insidieux parce que vous voyez des auteurs et des éditeurs qui, en septembre, disent oui, c'est cool, hein, on va prendre. Et qui, au fil des semaines, commencent à s'exciter, à parler dans les cafés de la configuration comme si c'était un match de rugby, de leur pion. Et tout ça, donc ça s'est un tout petit peu calmé, mais quand j'ai débarqué à Paris, en 89, ça m'a sidéré.
Mais c'est aussi quand même un moment qui rime avec compétition, palmarès, prix en tout genre, vous avez raison. Cette course folle, quel enjeu est-ce que c'est pour une maison d'édition? Je vous pose la question parce que vous avez une certaine expérience en la matière, vous en avez fait avoir des prix littéraires. Ça peut sauver une maison?
Oh non, il faut pas exagérer. Ça, pour une petite maison, c'est un tremblement de terre qu'il faut savoir gérer ensuite l'année qui suit. Pour les grandes maisons, ça fait partie de la cerise sur le gâteau et ça fait partie du mythe.
Mais quand vous publiez un roman pour une rentrée de septembre, vous y pensez forcément au prix?
J'y pense parce que tout le monde y pense. Les auteurs qui concourent au prix, quand ils vont chez leur banquier leur dit: alors, vous allez avoir un prix hein, cette année. Alors, est-ce que vous voulez? Bien sûr, ça change leur vie. Si même le banquier pense au prix...
Sont des orgueilleux. Tout le monde est orgueilleux, décidément. Il faut un prix pour qu'un livre se vende, aujourd'hui?
Non. Il y a des livres qui se vendent très très bien sans prix. Mais le prix est un multiplicateur. C'est-à-dire que si le livre se vend un peu... il se vendra 4 fois plus. Mais si le livre se vend déjà très bien, ça peut exploser.
Oui. Mais honnêtement, c'est un multiplicateur. Entre nous, Teresa Crémisi, réduire la littérature contemporaine à une compétition, est-ce que c'est vraiment rendre service à la littérature?
Mais ça n'est pas la réduire. Il ne faut pas prendre des choses trop au sérieux. Ne soyez pas comme Julien Gracq. C'est pas la réduire.
C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait.
C'est pas la réduire. C'est quelque chose en plus. Mais... et je vous dis que la France a ce feu d'artifice très étrange qu'il faudrait... analysé du point de vue ethnographique, éthologique, qui fait partie de son identité.
Ça existe des romans qui sont taillés sur mesure pour des prix littéraires?
C'est ce que disent les journalistes. Moi, j'en ai jamais rencontré.
Pourtant, vous en avez fait.
J'ai jamais fait des... J'ai assisté ou accompagné des auteurs, mais j'ai pas fait, j'ai pas participé à la fabrication d'un livre pour un prix. Non, ça n'existe pas.
Vous êtes extrêmement modeste, Teresa Crémisier, j'en ai la preuve. Voilà ce que me disait un certain Michel Houellebecq en 2010 sur France 24. À l'époque, ça remonte quelques jours après son prix Goncourt.
C'est quand même avant tout le travail de l'éditeur d'avoir le Goncourt, quoi. Donc si on veut le Goncourt, on va chez un éditeur qui a souvent le Goncourt. On va pas chez Flammarion, en fait. Si on va chez Flammarion, on diminue ses chances, quoi, au départ. C'est surtout ça, la démarche rationnelle et logique. Le contenu du livre, je pense que le jury Goncourt est capable de décerner son prix, un livre au contenu très violent et dérangeant.
Michel Houellebecq en 2010, prix Goncourt.
Ça, c'est une surprise.
Pour la carte et le territoire, publié chez Flammarion par vous à l'époque. Et c'est intéressant quand même, Teresa Crémisier, il dit que si un auteur veut le Goncourt, il a plutôt pas intérêt à être chez Flammarion. À l'époque, il a raison.
Je pense qu'il a raison. C'est-à-dire, il y a des configurations qui sont plus ou moins aidantes. Mais bon, il exagère un peu. Hein,
alors, il exagère, mais il dit quand même que c'est le travail de l'éditeur, la course au prix. Ça veut dire quoi, concrètement ?
Ça veut dire que les auteurs qui tiennent à un prix, et Michel Houellebecq y tenait, il l'avait raté 3 fois, et c'était tout à fait légitime qu'il l'ait, non pas pour le prix lui-même, il vendait déjà beaucoup dans le monde entier, mais c'était pour mettre derrière soi cette étape. C'est-à-dire, moi j'ai rencontré des auteurs qui disent « Ah, maintenant c'est fait, j'ai mon prix, je pense à autre chose ».
Mais quel est votre travail précisément en tant qu'éditrice dans la course au prix ? Vous rencontrez les jurés ?
C'est très fantasmé.
Ah, c'est vrai ?
Mais oui, bien sûr.
Un fantasme, alors ?
Mais oui, bien sûr que c'est fantasmé. Les auteurs et les journalistes, et vous en faites partie, pensent qu'avec un coup de fil, on décroche un prix. Bah, c'est à la fois pas vrai et plus compliqué que ça.
Ah, pourquoi plus compliqué ?
Parce que il faut faire en sorte, quand on est éditeur, que le livre des auteurs qu'on aime soit lu,
oui.
soit apprécié et qu'ils soient eux-mêmes déchargés. Ils ne vont pas faire leur promotion eux-mêmes. C'est le métier de l'éditeur. L'éditeur est un commerçant. C'est un tout petit peu un artiste quand il est un bon éditeur, mais c'est surtout un commerçant. En tout cas, il a 2 âmes.
Ça, c'est
l'âme de l'argent et l'âme de l'art.
Ça, c'est une vraie question. Pour quelle raison est-ce que vous êtes devenue éditrice, vous, à l'origine, Teresa Crémisier ?
Parce que je pensais que j'étais pas tout à fait une artiste et que être au plus près de la création littéraire me plaisait beaucoup, m'excitait et me donnait envie de vivre. Et ça, je l'ai décidé à l'âge de 20 ans.
Ce métier dont vous vous êtes un petit peu éloigné, tout en étant toujours très présente. C'est pour ça que c'est intéressant de vous en parler aussi ce matin. Vous le choisiriez encore, aujourd'hui ?
Ah oui, c'est un métier extrêmement difficile. Je ne souhaite pas aux jeunes éditeurs de s'ébrouer dedans en pensant que c'est facile. Non, c'est très, très difficile. Il faut de la chance. Il faut une bonne tenue nerveuse. Et un peu de culture.
Je vous pose aussi la question parce que le milieu de l'édition littéraire, on le sait, est un milieu en crise. Les ventes de livres ne cessent de décliner. Pourquoi est-ce que les gens lisent moins ?
Mais c'est pas vrai.
C'est vrai que les gens lisent moins.
Pourquoi vous répétez des choses qui sont fausses ?
Ça n'est pas vrai que les gens lisent moins. La littérature.
Non, c'est pas vrai. Regardez les statistiques. La France est championne de la lecture et de la vente des livres. Il n'y a pas d'écroulement.
Vous pouvez pas nier qu'on vendait plus de livres naguère, quand même.
Non, c'est pas vrai. On vend différemment. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de livres qui vendent un petit peu moins chacun. Mais le total est tout à fait réconfortant.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout est nivelé par des best-sellers ?
Pas nivelé, il y a toujours eu des best-sellers. Les best-sellers, ça va, ça vient, il en faut, mais il faut pas en faire tout un plat. Ce qui compte, c'est le travail de structure d'une maison d'édition. C'est les collections qu'elles tiennent avec des auteurs à 800 exemplaires et des auteurs à 80 000. Il faut que ça ait un sens. Construire un catalogue, c'est un travail.
Et comment faire, Teresa Crémisier, pour que l'aspect économique de votre métier ne prenne pas le pas sur le reste ? Cette question, vous l'êtes sûrement posée.
Ben, on n'est pas un bon éditeur si on n'est pas divisé en deux. À la fois le commerce et l'esprit, les deux.
Alors, quelle stratégie, par exemple, est-ce que vous avez mis en place pour continuer à exister lorsque vous étiez à la tête de la Maison Flammarion, pour faire en sorte que la maison continue de fleurir ?
Continue de fleurir, mais il suffit de faire de bons livres, vous savez, en principe c'est facile. Il faut entretenir avec le milieu des rapports aimants, il faut aimer ce qu'on fait, il faut lire, tout simplement.
Un bon livre marche essentiellement, quand il est bon, quand il est très bon ?
Il marche ou il marchera. Oui, j'en suis convaincue. Et je ne crois pas que le fait de marcher se calcule à la hauteur de ses ventes. Je pense que c'est plutôt l'incisif qui compte plus que la quantité.
C'est-à-dire qu'il y a aussi la possibilité du temps long pour un livre.
Mais c'est extraordinaire ce métier. Vous avez des auteurs, des génies. Regardez Sioran, pendant 50 ans, il a vendu 700 exemplaires, 800 exemplaires, 1000 exemplaires. Ensuite, il est mort, il en a vendu 4000. Enfin, c'est pas énorme, mais son poids, artistique, mental, est aujourd'hui tout à fait vivant.
Vous savez qu'il y en a une dans cette émission qui est très très loin d'être un best-seller, sans doute vous la connaissez, vous, c'est La Culture, et pourtant on l'aime bien, on est comme ça. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 4 novembre?
J'ai jamais eu envie d'être une femme publique et c'est la seule chose qui me dérange en fait dans ce métier, c'est qu'il y a une part d'exhibitionnisme et que je suis pas du tout exhibitionniste. Je suis plutôt timide. Je crois qu'un acteur ou un chanteur ne peut jamais être autre chose que ce qu'il est. Il est même lui-même à 3000% comme il n'a jamais osé l'être. Dans la vraie vie, comme on dit, on est tout à fait, enfin, soi-même.
Marie Laforêt, 5 octobre 1939, 2 novembre 2019. En exclusivité ce matin dans Boomerang, nous vous dévoilons le nom de la première tête d'affiche de la prochaine édition du festival We Love Green. Lana Del Rey est attendue lors de l'événement qui se tiendra les 6 et 7 juin 2020 au Bois de Vincennes. La diva exportera son spleen pour une date unique en France qu'il ne faudra pas manquer si on veut découvrir sur scène les morceaux issus de son dernier opus Norman Fucking Rockwell, fraîchement sorti en août dernier. On dit merci qui ? Merci Boomy.
Le Centre Pompidou a déjà obtenu un grand succès. Un succès de curiosité.
En Grande Pompidou, le Centre Pompidou inaugure cette semaine sa 3e antenne à Shanghai, en Chine. Le célèbre musée parisien, qui ne s'était jamais exporté hors d'Europe, débarque dans la cité chinoise tout juste 1 an après l'ouverture de son antenne bruxelloise et 4 ans après celle de Malaga. Cette perspective de développement a d'ailleurs suscité la même idée au musée Rodin, qui s'apprête lui aussi à ouvrir une antenne à Shenzhen. On attend vraiment une exposition sur les droits de l'homme. Bad Guy, but Good News. Hier soir, les MTV Europe Awards 2019 ont sacré la chanteuse américaine Billie Eilish du titre de la meilleure révélation et interprète de la meilleure chanson pour Bad Guy, ce titre hypnotique qu'il a révélé cette année. L'événement qui sera suivi dans quelques semaines du prestigieux American Music Awards est une très belle rampe de lancement pour cette révélation de la scène pop playlistée sur France Inter, top d'air. Et l'éditrice Teresa Crémisi, invitée de Boomerang ce matin pour cette semaine décisive de la rentrée littéraire. Votre métier d'éditrice, Teresa, avant de l'exercer en France, vous l'avez exercé en Italie. Pourquoi est-ce que vous l'avez quitté, l'Italie ?
C'est une longue histoire. J'ai quitté l'Italie parce que je voulais venir en France et je voulais venir à Paris et je voulais venir travailler chez Gallimard. Vous voyez
Ah bon ?
Ben oui.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça représentait ? La maison Gallimard et la France, de façon plus générale ?
La France et la maison Gallimard, mais la France et Paris, représentaient, pour moi, qui suis née en Égypte, à Alexandrie, d'une famille très cultivée, qui parlait français sans avoir une goutte de sang français, ça représentait le lieu où il fallait que je finisse ma vie.
Vous pensiez à certains livres, certains auteurs qui étaient publiés ?
Mais c'était un tout. C'était les cafés, c'était les rues, c'était la Seine, c'était le vent qui comme ça, qui décoiffe les arbres sur les quais, voilà.
Aujourd'hui, en quoi la place de la littérature et de la culture, de manière générale, a-t-elle évolué, a-t-elle changé ?
Ah, je me rends pas compte, non, je vois pas en quoi elle a changé. La place de la culture en France, elle me semble quand même centrale, et je vous disais qu'elle fait partie de son identité, je le crois.
Comment ça s'explique, ça ?
C'est un pays littéraire, il a de beaux paysages, il a un attachement à sa littérature et il mélange depuis des siècles politique et littérature. C'est quand même très particulier.
C'est intéressant parce que vous avez longtemps vécu en Italie. Est-ce que c'est le cas en Italie aussi ?
En Italie, l'Italie du XXe siècle a donné des intellectuels et des artistes extraordinaires.
Et oui.
Mais ils ne font pas partie du tissu social comme c'est le cas en France.
Vous la regardez,
je ne sais pas pourquoi.
L'Italie, de loin, aujourd'hui ?
De loin, j'y vais tout le temps, donc je la regrette pas. Je la vis au jour le jour. L'Italie traverse, pas depuis maintenant, mais depuis des décennies, des périodes d'instabilité qui sont très déprimantes, très fascinantes aussi. On a l'impression d'une grosse marmite qui boue continuellement, un paysage qui change, une politique instable, une certaine dépression italienne.
Et bien, en ce qui concerne la culture également,
en ce qui concerne la culture, bien sûr, puisque la culture n'est pas assumée. Vous savez, en France, quand on dit qu'on a un petit cousin qui est écrivain, mais tout le monde dit « Ah, il est écrivain !» En Italie, si vous dites « Mon cousin est écrivain », on dit « Poverino !» Ça veut dire « le pauvre
ouais. ». Ça résume bien les choses. Effectivement, ce pays, l'Italie, pour autant vous n'y êtes pas né, vous le disiez, vous ne l'avez découvert qu'à l'âge de 10 ans, après votre départ d'Alexandrie, quand vous pensez à cette enfance égyptienne, quelles images vous reviennent immédiatement?
Les images d'une ville, Alexandrie, très pas belle, mais très longue et très particulière, quand même chargée d'histoire. Et je dois dire que c'était un avant-poste de l'Europe. Je ne sais pas vous l'expliquer. On était en Orient, on était vraiment en Orient. On avait le Caire à 200 kilomètres, mais c'était... Elle regardait l'Europe depuis toujours et c'est à l'Europe qu'elle rêvait. Aujourd'hui, tout ça est bien fini.
C'est ça. En quittant l'Égypte, Teresa Cremisi, quel monde est-ce que vous avez quitté?
Mais vous savez, quand on part avec des parents un peu paumés et qui ont tout perdu à 10-11 ans, on se dit que la vie va recommencer ailleurs. Et on s'aperçoit, j'étais fille unique, on s'aperçoit que pour des parents qui ont autour de la quarantaine, c'est la fin de tout. Et du coup, on devient les parents de ses parents. Et c'est pas très confortable.
Ça a fait de vous la femme que vous êtes aujourd'hui?
Ah non, je sais pas. Vous savez, c'est le hasard qui fait les gens. C'est pas... Donc oui, ça fait partie du hasard.
Un monde aujourd'hui disparu, en tout cas ce dont témoignait votre roman, La Triomphante. Un monde disparu, au même titre que celui de l'Italie de votre adolescence, on l'a compris. Aujourd'hui, dans quel monde est-ce que vous avez l'impression qu'on vit?
Un monde, je ne vais pas être original là-dessus, un monde très accéléré, mais il me convient. Je ne suis pas du tout de ceux qui plongent dans la nostalgie et pensent à un autre monde meilleur.
Parce que vous êtes hyperactive, Teresa. C'est pour ça.
Vous voulez dire que j'ai la bougeotte? Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Qu'est-ce que vous avez peur pour autant de voir disparaître aujourd'hui?
Oh, j'ai pas peur. J'ai peur de rien.
Vous avez peur de rien?
Non.
De rien du tout?
Presque rien.
Jamais?
Oh, si, la maladie pour mes proches, mais c'est tout.
C'est pas le sujet, là, effectivement. Mm-hmm. On va reparler de disparition, quand même. Juste après, une chanson de Marie Laforêt. Marie Laforêt, on le disait, qui nous a quittés avant-hier. C'est une chanson qui me bouleverse chaque fois que je l'écoute. C'était en 1966. Je voudrais tant que tu comprennes. Vous êtes sur France Inter avec Teresa Cremisi. Vous écoutez Boomerang. On est lundi.
Je voudrais tant que tu comprennes, toi que je vais quitter ce soir, que l'on peut avoir de la peine et sembler ne pas en avoir, le cœur blessé encore sourire, indifférent apparemment au dernier mot qu'il faut écrire lorsque finit mal un roman. L'âme est perdue, sauver la face, chanter des larmes plein les yeux, et dans un univers de glace, donner l'impression d'être heureux. Je voudrais tant que tu comprennes. Puisque notre amour va finir, que malgré tout, vois-tu, je t'aime et que j'ai mal à mourir.
Et même si elle se cache, on va pas se mentir, c'est pas le genre de la maison, hein, on est quelque part entre Cléopâtre, Oum Kalthoum et Mère Teresa pour son prénom évidemment, avec son air magnanime, son port de tête d'altesse, son cheveu photogénique et son sourire pharaon, on a envie de sortir son bulletin de vote illico presto pour la porter aux plus hautes fonctions et voir son profil couronné frappé au dos de nos euros, avec son col roulé et sa grande broche bleue ce matin qui brille, la grande femme de lettres Teresa Crémisi, invitée de Boomerang pour parler ce matin de littérature, de mots, de livres, votre amour des livres. Vous, je le rappelle, qui avez été et qui est encore l'une de nos plus grandes éditrices. Comment est-ce qu'il est né, Teresa Crémisi?
Il est né parce que quand on est une fille unique, dans une période autour des années 50, il n'y a pas grand-chose à faire que lire. Et que le plaisir d'avoir à la disposition tous les mondes possibles est un plaisir extraordinaire. Et je n'ai jamais arrêté.
Quels étaient les livres qui vous entouraient? Petite.
Il y avait de tout chez moi, mais surtout je sais que j'ai commencé par le théâtre et j'ai commencé par Molière et j'ai trouvé ça très facile. J'avais 8 ou 9 ans et en effet, le théâtre est une voie d'entrée pour la lecture extraordinaire parce que au fond, vous n'avez pas de description, vous avez Sganarell qui parle et puis hop, vous comprenez. Et ça, c'est voilà, si j'avais des conseils à donner à vos enfants qui ne lisent pas, donnez-leur du Molière.
Et à quel moment intervient le roman ? À quel moment est-ce qu'il arrive, pour la jeune lectrice que vous êtes ?
Alors, j'ai essayé de faire mon intéressante, parce que ma mère lisait Proust, et j'ai rien, mais vraiment rien compris, mais j'avais 11 ans.
Voilà quoi rassurer nos auditeurs et auditrices.
Je n'ai rien compris à 11 ans, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Voilà, donc il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Il faut s'imbiber, ou toucher, ou feuilleter, ou jeter. On n'a aucune obligation avec la lecture.
Ne me dites pas, Teresa Crémisi, que vous avez publié des livres que vous n'avez pas compris.
Non, j'ai commencé à être éditrice après mes 20 ans. Mais quand on a cet âge magique qui va de 10 ans à 20 ans, eh ben on peut tout faire. On peut prendre un livre, le jeter, le relire, le feuilleter, l'abandonner. C'est pas grave.
Alors c'est d'autant plus juste que ces livres, on l'a compris, ils étaient en français, qui était une langue étrangère, le français. Quelle langue est-ce que c'est pour vous, encore aujourd'hui ?
La vérité, c'est que le français est ma langue, n'est pas du tout une langue étrangère. Je parlais d'autres langues, mais je lisais en français parce que ma famille parlait français. Et c'était très étrange puisque ma famille était composée d'une grande cousinade, ma mère était la dernière de 8 enfants, donc vous pouvez imaginer le nombre de cousins, et je crois qu'il y avait 7 ou 8 passeports dans la famille, donc vous voyez, le français était un lien.
Pourtant, écrire en français, comme vous l'avez fait pour La Triomphante, votre roman paru il y a 4 ans, ça avait un sens en particulier pour vous, choisir cette langue?
Oui, ça avait un sens. J'avais l'impression que je pouvais être plus précise et plus juste et plus tenue dans cette langue.
Et écrire un livre, de toute façon, pour l'éditrice que vous étiez, quel sens est-ce que ça avait ?
Ça n'avait aucun sens et je n'avais aucune envie d'écrire un livre. Vous voyez, on parlait d'éditeurs, c'est la preuve que les éditeurs servent à quelque chose. Un éditeur qui était mon ami, mais pas un ami très proche, qui est Olivier Frébourg, m'a tellement harcelé qu'à la fin j'ai écrit pour lui. Sans lui, j'aurais pas écrit.
Il se trouve que votre livre, La Triomphante, vous lui avez donné la forme d'un roman. Et c'est un texte qui se présente sous la forme d'un éloge de la forme romanesque que vous nous avez écrit ce matin, en exclusivité pour Boomerang. Et j'aimerais que vous entendre lire, si vous le voulez bien. On en parle après.
Alors, c'est aujourd'hui le jour où vont être décernés les prix Goncourt et le prix Renaudot. C'est d'ailleurs pour ça que vous m'avez invité.
Notamment.
Le jour où tous les ans se déroule en France une sorte de fête de la littérature. C'est l'anniversaire des livres, il se célèbre avec des cris de joie, des soupirs d'amertume. C'est un rite bruyant qui n'a lieu que dans notre pays. Je veux dire que seule la France donne une telle emphase à sa rentrée littéraire et au feu d'artifice des prix qui la couronnent. Je voudrais le fêter à ma manière en revenant au mot « roman » et à ce qu'il signifie. La forme romanesque est une merveille qui permet à l'imagination de sacrer gambades, des sauts, des galops, des plongeons, dans tous les sens. Il n'est pas nécessaire de se tenir à une structure stéréotypée ou empesée pour que voie le jour un livre qualifié de roman. La structure d'un livre peut aussi partir d'un récit semi-autobiographique, de thèmes variations sur des idées, ou de fantaisies historiques, ou que sais-je. Le roman est créé pour faire résonner les voix du monde. Elle s'y retrouve dans un moment de totale liberté. Milan Kundera a si bien et avec tant de fougue parlé du genre romanesque que je voudrais lire quelques phrases de lui, extraites de ses conversations avec Philip Roth. C'est Kundera qui parle. Le roman n'affirme rien. Il cherche, il pose des questions. Je ne sais pas si mon pays va périr, et je ne sais pas non plus lequel de mes personnages a raison. La bêtise des hommes vient de ce qu'ils ont réponse à tout. La sagesse du roman, c'est d'avoir question à tout. Dans un monde construit sur des certitudes sacro-saintes, le roman est mort. Le monde totalitaire, qu'il ait pour base Marx ou l'islam, ou n'importe quoi d'autre, est un monde de réponses plutôt que de questions. Le roman n'y a pas sa place. Les gens préfèrent juger plutôt que comprendre, répondre plutôt que demander, si bien que la voix du roman peine à se faire entendre dans le fracas des certitudes humaines. Et Milan Kundera a ajouté, on aura beau avancer des arguments pour démontrer que le roman a déjà épuisé ses possibilités. Je suis persuadée du contraire. Voilà ce que disait Milan Kundera en 1980. Lui et Philip Roth, les deux recalés du prix Nobel, étaient bien d'accord sur une chose, sur la liberté.
Qu'est-ce que c'est la liberté pour vous, Thérèse Alcalusi ?
La liberté est quelque chose de très personnel, on se promène avec. Et il faut pas l'abandonner.
Et qu'est-ce que ça représente pour vous ? Comment vous ?
Tout. Aujourd'hui, vous voyez, je ne suis plus jeune, donc il me reste peu de choses à faire dans la vie. Mais j'ai la conscience que, même contrainte, même portant des valises fatigantes, même malade, eh ben mon cerveau pourra gambader tout seul.
Et quel rôle, Thérèse Alcalusi, joue le roman dans la recherche, dans la conquête de la liberté ?
Le roman est quelque chose de tout à fait lié à la civilisation occidentale. Le monde entier a produit de la poésie, du théâtre, mais le roman comme genre est lié à cette civilisation et j'y tiens énormément. Je pense que c'est vraiment une des manières de comprendre le monde.
Vous avez beaucoup d'espoir, vous, en fin de compte ?
Non, je suis une fataliste gay, mais une fataliste dont j'ai pas beaucoup d'espoir.
Et les livres vous donnent espoir ?
Oh, espoir en quoi ? Non, ils me donnent du plaisir.
Du plaisir ? Qu'est-ce que c'est un livre pour vous ? C'est ma dernière question.
C'est un compagnon, c'est un ami, C'est un emmerdeur, c'est quelque chose qui m'accompagne.
Plus souvent emmerdeur ou plus souvent ami?
Oh, ça dépend, hein. Là, vraiment, vous entrez dans l'intime.
C'est ce qu'on essaye de faire dans cette émission. Merci infiniment, Teresa Crémisi, d'être venue faire un tour dans Boumang. Je rappelle que votre roman La Triomphante est disponible en poche aux éditions Folio. Aujourd'hui, c'est le Goncourt pour vous, ce sera qui?
Ah, ça, je ne peux pas le dire parce que je ne le sais pas.
Oui, bah c'est effectivement, bravo Einstein.
Vous fantasmez sur là-dessus, je n'en sais
rien.
Vous
pouvez avoir un avis quand même, on ne saura rien.
Bah, on ne saura rien, il y a un auteur auquel je tiens qui est Olivier Rollin, et je ne sais pas s'il a des chances, je ne le saurai dans 3 heures.
Le suspense est à son comble, tout de suite les médias. Sonia De Villers qui est de retour juste après ça.
Bitch, I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single, ain't worry about a ring on my finger, so you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend, set me down in the salon chair. I don't play tag, bitch, I been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like, aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like, aye, aye, aye. Why I'm in gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face.
Hurts, la vérité fait mal. Lizzo sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias. On est avec là. Sonia De Villers.
Salut Augustin, à demain.
À demain.